Lorsque le roi David faisait paître son troupeau, il trouva un réhem, une sorte de licorne, endormi dans la plaine. Il pensa qu'il s'agissait d'une montagne et grimpa dessus pour surveiller le troupeau. Alors qu'il se trouvait sur lui, le réhem se réveilla et emporta David jusqu'au ciel. Où sommes-nous ? Dans un film de science-fiction ? Dans le dernier opus de Marvel ? Non. Cette scène complètement surréaliste est directement issue de la littérature talmudique. Mais à quel niveau faut-il l'entendre ? Bien sûr, certains diront que ce sont là des allégories, qu'elles appellent une interprétation symbolique, métaphorique. Oui, bien sûr, sauf que les maîtres du judaïsme ne pensent pas toujours comme nous pensons et comme nous aimerions qu'ils pensent. Prendre conscience de cela est un des enseignements majeurs de Monstres sacrés, un ouvrage qui passe en revue toutes les créatures fantastiques qui peuplent les écrits bibliques et rabbiniques, tout en comparant la manière dont les maîtres ont interprété ces passages mystérieux. L'auteur de Monstres sacrés s'appelle Nathan Slifkin. Il a la particularité d'être à la fois rabbin orthodoxe et directeur d'un zoo à Beit Shemesh, en Israël, où il vit depuis 20 ans. Passionné de zoologie, il s'est spécialisé dans la confrontation des connaissances scientifiques aux textes de la tradition, ce qui a suscité d'importantes polémiques au sein du monde haredi. La place et le crédit qu'il accorde au darwinisme, à l'âge réel de l'univers et aux lectures non littérales des textes traditionnels lui ont même valu une mise au ban, un cherem, de la part d'une partie, et d'une partie seulement, des autorités rabbiniques. C'est la première fois qu'un de ses livres est mis à disposition du public francophone et il faut saluer l'initiative personnelle d'un jeune homme qui s'appelle Reuven Bouhana, qui a entrepris à son propre compte la traduction de cet ouvrage. Alors, Monstres sacrés est un livre perturbant. Bien sûr, il est réconfortant de savoir que Maïmonide ou le Maharal de Prague ont une lecture métaphorique des passages les plus improbables et des phénomènes les plus invraisemblables décrits dans les textes. Mais ces maîtres, aussi immenses soient-ils, ne représentent qu'une infime partie des opinions rabbiniques et leur approche est loin de faire consensus parmi leurs pairs. Quand on lit dans le Talmud que Moïse mesurait 5 mètres de haut et que Pharaon mesurait seulement 50 cm, Maïmonide y voit des dimensions morales. Mais Rabbeinu Nissim de Gérone, le célèbre Ran, un autre géant, c'est le cas de le dire, de sa génération, n'est pas du tout de cet avis, par exemple. Que Dieu nous garde de remettre en cause le sens littéral des propos de nos maîtres, s'écrit le Shla HaKadosh, un maître du XVIe siècle, au sujet de ces passages. Et que dire alors des êtres mi-homme, mi-poisson, dont parle le Talmud, ceux-là que Rashi appelle, en ancien français dans le texte, des sirènes. Que dire des licornes, des loups-garous ou du phénix auxquels se réfèrent d'illustres commentateurs médiévaux. Et encore, je ne vous parle là que de textes rabbiniques. Cela se corse si l'on pense aux créatures bibliques. Le fameux Léviathan du début de la Genèse, celui dont le Talmud dit qu'il avale des dizaines de baleines par jour, ou alors le géant Goliath, qui vient défier le futur roi David. Si tout cela ne sont que allégories, alors pourquoi les autres récits miraculeux de la Torah ne le seraient-ils pas ? Les plaies d'Égypte, l'ouverture de la mer des joncs, le déluge, la liste est longue et elle donne un peu le vertige, tant on ne sait plus où placer le curseur entre allégorie et réalité. Avec ces monstres sacrés, Slifkin nous conduit aussi à travers l'état des connaissances et des découvertes scientifiques générales dans lequel baignaient les maîtres juifs. Il arrivait que l'on gratte le sol et que l'on tombe sur des ossements gigantesques que l'on assimilait à cette époque immédiatement au fémur du géant Og, ou à une dent du Léviathan, bien longtemps avant que l'on comprenne qu'il s'agissait d'ossements, de mammouths ou de dinosaures. C'est une remarquable ironie de l'histoire. Les mêmes découvertes qui ont ébranlé la vision théologique du monde au XIXe siècle sont précisément celles qui étaient utilisées auparavant pour conforter les récits bibliques. Surtout, Slifkin nous montre des maîtres qui doutent, des sages tourmentés. Oui, bien sûr, c'est improbable, nous savons bien que notre monde n'est pas ou n'est plus comme ça, mais quand même, les textes le disent et il faut bien en rendre compte. Entre littéraliste et symboliste, Slifkin ne tranche jamais. Il se contente de décrire, d'énumérer les différents avis. C'est tout à son honneur, mais c'est peut-être là aussi que se situe la limite du livre. À aucun moment, Slifkin n'entame la réflexion sur ce que croire veut dire et sur la notion même de vérité. Cette question fondamentale, l'un des plus importants historiens français s'en est emparé. Dans « Les Grecs croyaient-ils en leur mythe ?», Paul Venn, disparu l'an dernier, se demande « Aristote, Platon, tous ces grands esprits croyaient-ils vraiment aux légendes du Minotaure, à la fable du Cyclope, aux récits de l'Iliade et de l'Odyssée ?» Paul Venn montre que la question est elle-même tronquée. Pour les anciens, explique-t-il, le mythe et la raison ne s'opposent pas. Ils sont différents registres de vérité. Einstein n'est pas plus vrai qu'Alice au Pays des Merveilles. Les notions même de croyance et d'authenticité varient d'une époque à l'autre, de la même façon que la distinction entre tradition, mythe et histoire n'est pas aussi tranchée pour les anciens que pour nous autres modernes. Une leçon d'histoire des mentalités et d'humilité aussi, dont je ne peux que vivement vous recommander la lecture, en regard des monstres sacrés de Nathan Slifkin. J'aimerais terminer par une anecdote que je tiens d'un maître strasbourgeois. On demanda à Franz Rosenzweig s'il croyait vraiment à l'épisode biblique où l'ânesse de Bilam se met à parler. Et le philosophe de répondre « Bien sûr que je ne crois pas qu'une telle chose se soit produite, sauf à un moment dans l'année, lorsque ce passage de la Torah est lu à la synagogue, là j'y crois. » Le mot de Rosenzweig est emblématique d'une vision du monde, celle dans laquelle le texte constitue un événement à part entière et où la réalité textuelle n'a rien à envier à la réalité scientifique, ce qui constitue peut-être, in fine, la condition même de l'étude.